J'ai la voix qui est un peu prise, donc j'espère que vous entendez bien.
Oui.
Ok. Peut-être bien qu'elle va tenir jusqu'au bout. Je voudrais lire avec vous ce matin dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 3 et les versets 21 à 26. Romains 3, 21 à 26. Mais maintenant, en dehors de la loi, la justice de Dieu, attestée par la loi et les prophètes, s'est manifestée. Justice de Dieu par la foi de Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction. Tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu s'est proposé de constituer en expiation au moyen de la foi par son sang pour montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant dans sa tolérance, Dieu a voulu montrer sa justice dans le temps présent pour être juste tout en justifiant celui qui relève de la foi de Jésus. Le thème de ce matin sera donc le salut. Une notion centrale de la foi chrétienne, comme vous le savez tous. L'apôtre Paul écrit au début de Romains que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut. Pourquoi aurions-nous besoin d'être sauvés? Pour faire court, Paul écrit que les humains ont refusé de reconnaître Dieu pour ce qu'il est, le Créateur, envers lequel nous sommes redevables en tant que créatures. Ce refus de la personne de Dieu a entraîné une compréhension faussée des choses, la perte des repères intellectuels et moraux, et donc des pratiques fausses et des attitudes marquées par l'injustice, la violence, sous toutes ses formes, et l'égocentrisme. Dans la Bible, le mot péché désigne d'une part une position vis-à-vis de Dieu, position fausse, et d'autre part un certain nombre d'attitudes mauvaises. Le fait d'être éloigné de Dieu consciemment ou non, volontairement ou simplement par notre éducation ou par notre culture, le fait d'être éloigné de Dieu nous met en porte-à-faux par rapport à lui. Nous vivons dans l'ignorance, nous sommes en grande partie déconnectés de la réalité essentielle, notre Créateur. Et il y a en nous, au plus profond, un vide qui a la forme de Dieu, pour reprendre la parole d'un philosophe. On pourrait trouver le discours sur les péchés très théorique s'il n'était pas appuyé et confirmé par la réalité observable autour de nous, mais aussi en nous. Autour de nous, on a l'impression que le mal est bien présent, sous des formes diverses et plus ou moins brutales. Notre société a l'habitude de loger ce mal dans des événements particuliers, comme le terrorisme ou le crime organisé, les dictatures ou les guerres. Mais le mal n'est pas seulement là. Partout, entre pays, mais aussi entre individus, dans les familles, au travail, nous avons beaucoup de mal à construire un vivre ensemble satisfaisant. Et quand nous y arrivons, ça reste fragile et précaire. Souvent, malgré notre bonne volonté, malgré notre désir, le chacun pour soi, la violence et aussi la peur, nous empêchent de bien vivre ensemble. Encore une fois, ce n'est pas que nous manquons de bonne volonté. On aimerait tous, ou presque, une vie sociale plus paisible, harmonieuse, plus solidaire, plus fraternelle. Mais ce n'est pas pour autant qu'on y arrive. Car le péché est aussi une prison. Paul décrit cela au chapitre 7 de la lettre aux Romains, un peu plus. Au verset 16, notamment, il dit « Ce que je produis, ce que je fais, je ne le comprends pas. » Ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je fais, c'est ce que je déteste. Un peu plus loin, il écrit « Je le sais, rien de bon habite en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Il est à ma portée de vouloir, mais non pas de produire le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. » Et encore un peu plus loin, « Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Ce qui est à ma portée, en fait, c'est le mal. » Pour ce qui est de l'homme que je suis intérieurement, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais dans mon corps tout entier, il y a une autre loi qui lutte. captif du péché qui est dans tout mon corps. Et Paul conclut, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Malgré toute notre bonne volonté, il nous arrive de faire le mal que nous ne voudrions pas faire. Et nous n'arrivons pas toujours à faire le bien que l'on voudrait. Nous sommes des victimes du mal commis par d'autres, mais nous sommes aussi producteurs du mal, à notre niveau. Il y a en nous quelque chose de plus fort que notre attirance pour le bien, quelque chose de plus fort que nos idées généreuses et notre bonne volonté. Parfois, on arrive à faire des choses bonnes, évidemment, mais pas toujours et pas aussi souvent qu'on voudrait. Les discours généreux et positifs de notre société ne manquent pas. Combien de fois a-t-on dit « fini la guerre, celle-ci sera la dernière jusqu'à la suivante ». On a dit que le mal est dû à la pauvreté ou au manque d'éducation et de connaissances. Un certain Louis Jourdan a écrit une phrase qu'on attribue souvent à Victor Hugo, « Ouvrir une église, ouvrir une école, c'est fermer une prison. » C'est sûrement vrai. Mais ça ne règle pas tout le problème du mal. La violence n'est pas moindre dans les pays riches et cultivés que dans les pays pauvres. Et le siècle dernier a été très surpris de voir que la violence la plus extrême est née d'un pays qui était peut-être le plus cultivé de son époque, à savoir l'Allemagne. Et aujourd'hui, on s'aperçoit bien que des choses comme la violence conjugale ou les abus sexuels ne sont pas l'apanage des pauvres et des ignorants, et qu'on trouve ça dans toutes les couches de la société. J'ai une femme qui est assistante sociale, si vous voulez plus de détails, elle pourrait vous en parler. Sauf qu'elle n'est pas là, mais bon. Et donc il y a une part de mal qui résiste à toutes les explications des sciences humaines, au discours de la psychologie ou de la sociologie. Il y a une dimension tragique dans la vie humaine qui n'arrive pas à se débarrasser de ce mal, si présent sous différents aspects. Et nous ne pouvons pas nous en sortir par nous-mêmes, par nos propres efforts, et on ne peut pas non plus par de bonnes actions effacer les mauvaises. Ça ne marche pas. Et je pense qu'on n'a pas besoin de réfléchir longtemps pour se rendre compte qu'on est dans cette espèce de prison. On n'arrive pas à faire le bien qu'on voudrait, en tout cas pas toujours, et on arrive à faire des choses qu'on n'aurait pas imaginé faire. Quelques années, les moniteurs d'école dimanche m'ont demandé de parler du péché à des jeunes qui devaient avoir entre 6 et 9 ans, je pense. Et je leur ai parlé du péché justement comme ça en disant « Est-ce que ça vous arrive de faire des choses que vous n'auriez pas voulu faire ? Et est-ce que ça vous arrive de ne pas arriver à faire des choses malgré vos bonnes résolutions ?» Aucun enfant m'a dit « je comprends pas de quoi tu parles ». Ils ont tous percuté immédiatement. Mais nous aussi, on peut lire, évidemment, pour peu qu'on soit d'accord d'être un peu lucide sur nous. Le Nouveau Testament, l'Écriture nous enseigne que non seulement nous sommes prisonniers du mal, mais que ce mal amène un jugement sur nous. Alors, le mot jugement ne plaît pas beaucoup. Et j'aimerais développer ce thème en trois parties. Il y a trois raisons pour lesquelles qui justifient le jugement dans l'Écriture. La première raison, c'est que Dieu nous considère comme responsables de nos actes, de nos paroles et même de nos pensées. Et ce faisant, il donne du poids à ce que nous sommes. Il donne de l'importance à ce que nous sommes et faisons. Il ne nous considère pas comme des enfants mineurs et irresponsables. C'est une bonne nouvelle qu'il nous prenne au sérieux. Mais évidemment, ça a des conséquences. Et l'Écriture nous le dit à plusieurs reprises. On récolte ce qu'on sème. Par exemple, toujours chez l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6, versets 7 à 8, Paul écrit « On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, c'est aussi ce qu'il moissonnera. Celui qui sème pour sa propre chair récoltera la moisson de la chair, la pourriture, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera la moisson de l'esprit, la vie éternelle. C'est Paul écrit à des chrétiens, mais les mêmes principes s'appliquent à des non-chrétiens aussi. Dieu donne du poids à ce que nous faisons, il nous considère comme responsables, comme des êtres responsables. Et c'est une des dimensions de l'amour qu'il a pour nous. La deuxième raison qui amène le jugement, c'est que Dieu est attentif aux victimes du mal que nous faisons, que les uns les autres, que l'on voit dans le monde. Car nos fautes, le mal produit des souffrances. Et même notre indifférence à ceux qui souffrent nous met en faute. Je voudrais lire deux textes avec vous, mais comme j'ai la voix un peu fatiguée, je vais demander à deux personnes de bien vouloir lire, si vous êtes d'accord. Le premier texte se trouve dans Genèse 4, versets 5 à 12. Et le deuxième se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Quelqu'un veut lire Genèse 4, versets 5 à 12 ?
5 à 11,
Genèse 4, versets 5 à 12.
À 12. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se trouve à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn : Où est ton frère Abel ? Il répondit : Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ? Et Dieu dit : Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère.
Verset 12 encore.
Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre.
Voilà. Nous connaissons tous cette histoire, hein, Caïn et Abel. Caïn assassine son frère, Abel est mort, il est éliminé, il ne peut plus rien dire. Peut-être Caïn considère que son problème est réglé avec la mort de son frère. Mais manque de bol pour lui, Dieu se lève et réagit. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que Dieu aurait pu dire à Caïn : Qu'as-tu fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas écouté quand je t'ai dit fais attention ? Vous vous rappelez, Dieu lui a parlé. Dieu l'a prévenu. Eh bien, Dieu ne dit pas ça. Bien que sa parole ait été méprisée par Caïn, quand Dieu prend la parole, il va parler pour Abel. Il va parler pour Abel. Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Dieu prend le parti de la victime du mal. Et il parle à la place de celui qui a été éliminé et qui est mort. Et c'est à cause du péché fait à Abel que Caïn est maudit, dans notre texte. Le deuxième texte, quelqu'un veut le lire, Matthieu 25, 35-46. Ouais.
35 à 46.
31 à 46. Matthieu 25, 31 à 46.
Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, alors il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra le brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu auprès de moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, et avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Et quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Ou quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés auprès de toi? Et le roi leur répondra, en vérité, je vous les déclare, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me l'avez fait à moi-même. Je continue.
Oui.
Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, jusque dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade, en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ceux-ci lui répondront à leur tour, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif, être étranger ou nu, ou malade ou en prison? Et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, en vérité, je vous le déclare, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne me l'avez pas fait à moi non plus. Et ceux-ci s'en iront au châtiment éternel, mais le juste iront à la vie éternelle.
Ici encore, Dieu juge par rapport aux victimes. Sauf qu'ici, il s'agit plus des victimes de notre indifférence. Il ne s'agit pas de ce qu'on a fait, mais plutôt de ce qu'on n'a pas fait. Parce que Dieu, lui, n'est pas indifférent par rapport aux victimes. Il n'est pas indifférent par rapport aux populations qui meurent de faim, aux réfugiés qui se noient en Méditerranée, aux ouvriers de pays asiatiques qui vivent et travaillent dans des conditions inhumaines pour que nous ayons des habits pas chers, ou aux agriculteurs qui se suicident par dizaines chaque année dans notre pays. Et Dieu sait, comme nous le savons nous-mêmes, que tous ces morts ne sont pas le produit d'une quelconque fatalité, mais d'un fonctionnement global de nos sociétés. Dieu est attentif à ses victimes parce que ces personnes sont aussi ses créatures. C'est pourquoi il peut s'identifier à elles en disant « c'est à moi-même que vous l'avez fait ou pas ». Troisième raison qui explique le fait qu'il y ait jugement, c'est Dieu lui-même. Notre attitude, notre indifférence vis-à-vis de lui le blesse. Notre rejet de sa personne, notre refus de nous situer dans notre réalité de créature face à lui, le Créateur, l'atteint au plus profond de son amour. Le mal que nous faisons aux autres créatures, et notamment aux êtres humains, l'indigne, le révolte et le met en colère. Face à ces trois raisons, qui d'entre nous peut estimer qu'il est injuste que Dieu condamne? Qui peut dire qu'il n'est pas concerné par cela? Qu'il n'est en rien concerné par l'injustice et la violence présente dans ce monde? Comme le dit si bien Paul au verset 23 de notre texte de base, tous en effet ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais, heureusement, il ne s'arrête pas là. Il poursuit au verset 24 et nous entrons de plein pied dans l'évangile. C'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu ne nous abandonne pas à notre sort. Amen.
Amen.
Il ne nous abandonne pas à notre sort de condamné, de prisonnier. Il vient à notre secours par Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, il nous justifie, il nous rend juste. Par la grâce de Dieu, dit le verset 24. Le mot grâce souligne l'amour de Dieu, son bon vouloir bienveillant envers nous. Parce qu'il nous aime, il s'arrange pour nous gracier. Comment c'est possible? Le verset 24 affirme que c'est par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et en quoi consiste cette rédemption? Rédemption, c'est un de ces mots qu'on lit plus que dans la Bible et on ne sait pas toujours très bien ce qu'ils veulent dire. Mais heureusement, le verset 25 va nous expliquer ce que signifie le mot rédemption. C'est lui, Jésus-Christ, que Dieu s'est proposé de constituer en expiation au moyen de la foi par son sang pour montrer sa justice. Jésus expie pour nous. Jésus paye notre dette. Jésus prend sur lui le poids de nos fautes. Il prend sur lui la condamnation qui devrait nous revenir à nous. Il se substitue à nous. C'est ce que nous commémorons, chaque fois que nous prenons la scène. Le corps brisé pour nous, le sang versé pour nous. Et parce qu'il paye pour nous, il efface nos fautes, il efface notre dette. Il nous libère de la condamnation. Pour peu que nous entrions dans ce salut, que nous recevions cette grâce de Dieu avec reconnaissance, avec ce que le Nouveau Testament appelle la foi. La foi. La confiance en l'amour de Dieu qui nous sauve et qui nous libère. Évidemment, pour cela, il faut reconnaître ce qui a été dit au début de la prédication, à savoir cet état de péché et de condamner. Ça ne nous plaît pas trop, mais c'est notre réalité humaine. Et avoir la foi, c'est aussi accepter cette réalité humaine et accepter la sortie que Dieu nous propose dans le Christ. Cette affirmation que Jésus meurt pour nous, qu'il prend sur lui le poids et la conséquence de notre péché, est au cœur de la réforme. C'est cette découverte de la grâce de Dieu qui fait que la grâce de Dieu qui fait que Jésus meurt pour nous, qui a changé la vie de Martin Luther et qui a été le noyau de son message et qui a provoqué en quelques années la réforme, le plus grand réveil de tous les temps. Martin Luther explique qu'il était stressé par l'idée du salut. Comment pouvoir être agréable à Dieu avec la vie qu'il menait, les pensées qu'il avait, le comportement qu'il avait. Et malgré tous les efforts qu'il faisait, les bonnes œuvres qu'il faisait, ça ne marchait pas. Il se rendait bien compte que ça ne marchait pas. Puis il raconte comment il est tombé sur ce passage de l'Épître aux Romains, sur le juste qui vivra par la foi et comment ça a changé sa vie. Cette affirmation est toujours au cœur des confessions de foi des églises protestantes, évangéliques. Mais depuis quelques années, on est parfois gêné par cette idée, notamment en Occident. On trouve cela barbare, tout ce sang et cette violence, cette mort du Christ à cause de nous, de notre péché. On voudrait que le pardon soit un simple effacement des fautes. On fait comme s'il n'y avait rien eu, vous voyez ? Sans que personne n'ait besoin de payer la note. On casse, puis après on fait comme s'il n'y avait rien eu et personne n'a besoin de payer la note. Le confort matériel et la paix relative dans laquelle nous vivons depuis 70 ans a un effet anesthésiant par rapport à la réalité de la violence et de l'injustice dans laquelle vit l'écrasante majorité de notre planète. On est tenté par une théologie babacool, soft, oublieuse du tragique de la condition humaine. Alors les attentats terroristes sont en train de changer un peu cette perception, mais... Je ne suis pas sûr que les théologiens des pays les plus pauvres réagissent comme nous par rapport à cette théologie du salut. Eux qui connaissent bien plus que nous la misère, la violence, l'exploitation, l'injustice. Le verset 26 donne la clé du comportement de Dieu quant au salut. Pourquoi le Christ a-t-il été fait expiation? Paul écrit, Dieu a voulu montrer sa justice dans le temps présent. Pour être juste, tout en justifiant celui qui relève la foi de Jésus. Dieu ne pouvait pas simplement passer un coup de torchon sur le tableau ou accorder un pardon qui faisait comme s'il n'y avait pas eu de mal. Si Dieu avait fait cela, il aurait méprisé la justice, il aurait méprisé les victimes du mal, il aurait méprisé la réalité. Et Dieu n'est pas comme ça. Dieu prend la réalité au sérieux, y compris la nôtre, la réalité de nos comportements, de nos attitudes. Et Dieu, je l'ai dit au début, et Dieu aussi a le souci que justice soit faite aux victimes. Que justice soit faite aux victimes. Qu'on prenne au sérieux le mal qui a été fait. J'ai travaillé 6 ans à Bruxelles. Et dans ce cadre-là, j'ai travaillé avec des réfugiés rwandais. Là, on était en 1999-2000. Vous voyez, le génocide est tout chaud. Les gens sont partis avec, pour certains, entre 100 et 80% de la famille qui est restée, qui est morte dans le génocide. Et on entame à Bruxelles avec une association qui travaille en Afrique, où on entame un séminaire de guérison réconciliation. Et on nous invite, nous les Mennonites, à participer à ce séminaire. Donc j'y vais, parce que je travaillais pour le Centre Médical de Bruxelles à l'époque. Et puis, à la fin de ce séminaire, on dit il faut continuer, mais nous on repart en Afrique, donc on va demander au Centre Médical de faire la suite. Ce n'est pas vraiment un cadeau, mais je vous parle de ça parce que à la fin de ce séminaire, qui a duré 4 jours, on a proposé une démarche aux gens qui étaient là. Et la démarche consistait à écrire sur une feuille le mal qui avait été fait, qu'ils avaient subi eux. Donc de parler du mal qu'eux avaient vécu, ou leur famille, ou leurs proches. Et puis, toutes ces feuilles ont été mises dans un bras zéro, qui était juste devant. Il y avait une croix, un bras zéro devant. On mettait les feuilles dedans, et on disait on va brûler ces feuilles. Pour essayer de dépasser ce qu'on a vécu, recevoir une paix, aussi par le pardon de ce qui avait été fait aux uns et aux autres. La croix a montré comment Dieu avait aussi pris sur lui tout ce mal à travers le Christ, et que par cela il pouvait aussi ouvrir une porte à ceux qui avaient été dans ce qui avaient vécu ces catastrophes-là. Le fait que Dieu soit, que le Christ soit mort pour les péchés des hommes, le fait que ce mal qui a été vécu si profondément a été vu et pris en compte par Dieu à travers Jésus, et a été un élément de guérison pour ces gens-là. Si on avait juste dit, écoutez, on pardonne, on fait comme si ça n'avait rien eu, on n'aurait pas beaucoup avancé. Le fait que Jésus meure pour nous nous permet de sortir de sortir progressivement de nos dynamiques mauvaises, d'entrer dans un autre type de relation avec non seulement Dieu, mais les uns avec les autres, et de pouvoir pardonner nous aussi. Le fait que Jésus meurt pour nous est d'abord l'expression de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. La mort du Christ est un scandale. Pourquoi un innocent paye pour les autres? C'est une folie. Mais la clé de compréhension de cette folie, c'est l'amour obstiné de Dieu pour nous. Et son désir de nous sortir du péché, de nous sortir de la condamnation, et d'entrer avec lui dans une relation de fils et de fille du Père Céleste. Et ce qui change aussi nos relations les uns avec les autres. Et progressivement de nous apprendre à nous pardonner les uns les autres, au lieu de nous juger les uns les autres en permanence. Je termine en reprenant rapidement les différents points. Le fondement du salut, c'est la grâce de Dieu pour nous, c'est-à-dire son amour, sa bienveillance. Nous avons besoin de cette grâce, car nous sommes dans une situation de pécheurs, vis-à-vis de Dieu, les uns vis-à-vis des autres. Ce n'est pas seulement une situation, mais c'est aussi une pratique. C'est notre manière de vivre marquée par le mal. Pas seulement par le mal, mais par le mal aussi. Un mal dont on n'arrive pas à se débarrasser par le mal. En tant que pécheurs, nous sommes sous la condamnation de Dieu pour trois motifs. Notre responsabilité, le mal fait aux victimes, et enfin le mal fait à Dieu lui-même, qui nous a créés pour autre chose, et qui nous voit nous détruire les uns les autres, au fil du temps. Jésus prend sur lui le poids et les conséquences du péché. Il assume notre condamnation. Il nous ouvre au pardon de Dieu et à notre manière de vivre. La suite de l'Épître, notamment les chapitres 5 à 8, nous décrit la nouvelle relation que nous avons avec Dieu. Nous parle de la nouvelle naissance par le Saint-Esprit et la nouvelle identité de fils-fille du Père Céleste, qui sont au fondement d'une nouvelle manière de vivre. Mais ça sera pour une autre prédication. Amen. Je propose qu'on fasse silence quelques secondes et je vais prier encore après. Merci, notre Père, de t'intéresser à nous, de nous avoir aimés, de ne pas nous avoir abandonnés à notre situation, mais d'être venu pour nous apporter le salut en Jésus. Aide-nous à vivre de ce salut. Vivre dans notre relation avec toi, en te mettant au centre, comme nous l'avons chanté, et aussi dans nos relations les uns avec les autres, en Église et en dehors. Que notre vie reflète de mieux en mieux ce salut, cette grâce reçue de toi. Aide-nous là où ça résiste en nous. Aide-nous à nous décentrer de nous-mêmes pour nous centrer sur toi là où c'est difficile. Aide-nous à te faire confiance en toute simplicité. Aide-nous dans nos relations les uns avec les autres pour vivre ton évangile. Nous disons un grand merci. Amen.